Pascal, il a une réponse à ça. À
Ah.
chaque fois, il dit qu'il faut mouiller sa chemise. Et que si tu mouilles ta chemise, t'embarques les gens. En fait, c'est ça. C'est si toi, t'es passionné, les gens, ils suivent.
Enquête du patrimoine.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Enquête du patrimoine qui vous est proposé par l'association Rubricaine Historebraise. Il s'agit du podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre et valorisent le patrimoine et le matrimoine en Bretagne. Je suis Betsabé Levin et je vous emmène aujourd'hui au cœur du musée de Bretagne à Rennes en Ille-et-Vilaine pour découvrir le métier de médiateur et médiatrice culturelle. Alors cet épisode est un peu particulier car il a été réalisé dans le cadre d'un stage qui m'a permis de suivre différentes visites guidées de Laura Bourdet et Clémence Troussier, médiatrice au musée de Bretagne, afin de mieux comprendre les enjeux et les réalités de leur métier.
Bonjour Clémence et Laura. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots?
Donc Laura Bourdet, je suis médiatrice culturelle au musée de Bretagne depuis 4 ans.
Clémence Troussier, médiatrice culturelle au musée de Bretagne depuis 3 ans et demi bientôt, sachant que j'ai une particularité où moi je suis mutualisée avec également la direction des champs libres. Donc, ça veut dire que j'accompagne les expositions autant du musée de Bretagne que celles situées dans la salle Anita Conti aux champs libres.
Et vous êtes combien à faire ça, être mutualisée entre les champs libres et le musée de Bretagne?
Moi je suis la seule permanente et sinon on a une équipe de contractuels que l'on nomme des guides animateurs qui ont en fait des contrats réduits qui ont vocation en fait à faire du terrain pur et eux sont mutualisés aussi, c'est-à-dire qu'ils font de la médiation autant auprès du musée de Bretagne que de la direction. Mais je suis la seule permanente.
Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours? Comment vous êtes arrivée ici? Qu'est-ce que vous avez fait avant?
Donc pour moi, j'ai commencé mes études à rien à voir. J'ai fait un DUT technique de commercialisation que j'ai pas spécialement aimé. Et du coup, après, j'ai fait une licence d'histoire de l'art durant laquelle j'ai rencontré le métier du coup de médiateur culturel, forcément en fréquentant des musées et des structures culturelles. Ensuite, je suis partie en fac de droit, pensant vouloir être commissaire-priseur, mais finalement non. J'avais envie d'avoir du lien avec les personnes. Et ensuite, j'ai fait un master d'histoire de l'art, mais spécialisé en art actuel, en art contemporain à Rennes 2. Et à la fin de mon master, il a fallu faire un stage professionnel. Donc, je suis allée à la direction de la culture à Rennes. Et pendant mon stage, j'ai rencontré notamment Hélène Audrin. Donc avec qui on a pu discuter de son approche de la médiation, etc. Ce qui m'a pas mal stimulée. Quand j'ai vu l'offre, j'ai candidaté et j'ai été prise.
Moi, j'ai un parcours en histoire de l'art à l'école du Louvre, où j'ai fait le premier cycle. Après, je suis partie à Avignon dans un master qui s'appelait sociologie des publics et de la culture, donc plutôt en infocom et sociologie des publics. Et à l'issue de ce master, j'ai fait mon stage au Champ Libre, mais plutôt à la direction sur l'organisation d'un festival littéraire. Et après d'autres petites expériences et en médiation et en gestion de projet, je suis revenue au musée de Bretagne en ayant eu le concours d'assistant de conservation, où il y avait un poste de titulaire en fait. Ce qui m'a fait retourner et dans les musées et dans la médiation, et c'est plutôt bien tombé, même si je pensais pas forcément arriver là. C'était une redécouverte et c'était chouette.
Comment vous décririez-vous votre métier de médiatrice culturelle?
Ça, c'est toujours un grand sujet parce qu'il y a mille et une définitions quand même de la médiation culturelle avec aucun consensus. En tout cas, pour moi, la médiation culturelle, dans un premier temps, elle a distingué de la visite, du métier de guide conférencier. En médiation culturelle, en tout cas, l'objectif moi, que je donne derrière ce métier, c'est de créer du lien entre un objet culturel, aussi varié, le spectre étant aussi large, et des personnes. Et finalement, la diffusion du contenu, elle reste importante, mais elle n'est que prétexte en fait à la création du lien avec les personnes pour qu'ils s'approprient justement ces objets culturels qu'ils voient.
Moi, je dirais que c'est avant tout du partage. De nous et du musée, mais aussi des gens entre eux, des gens avec nous. Enfin, c'est un peu à tous les niveaux. Et nous, on partage ce qu'on sait, mais on ne sait pas tout non plus. Donc, il y a un vrai échange en général. Et ce qui est chouette, c'est qu'on sort un peu du format, effectivement, visite-conférence et que chacun parle un peu de ce qu'il connaît.
Quel est l'objectif central de ce métier ?
Que les gens se sentent autorisés, en fait, à fréquenter une structure culturelle.
T'es d'accord avec ça ?
Ouais, et puis que tout le monde passe un bon moment, qu'ils repartent un peu contents. Et souvent, quand on a fait une bonne visite, ils sont un peu étonnés d'avoir passé un bon moment, d'avoir rigolé. Ils s'attendaient pas à ça d'une visite, parce que c'est pas ce qu'on s'imagine. Et pour moi, quand ça a marché, c'est ça. C'est qu'ils ont presque pas envie de partir et on est à deux doigts d'aller boire un café ensemble, quoi.
Bah, merci à vous.
C'était génial.
Ah, merci.
Et voici c'était la dernière histoire de cette Bretagne comptée. Est-ce que ça vous a plu?
Ouais.
Elle se termine bien, les histoires, ça va.
Et vous allez toucher quoi comme type de public?
Bah, tous, hein. Ça va quand même du 3 ans de l'aîné, en passant avec des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire français, qui sont en passant aussi par des personnes en réinsertion professionnelle, en situation de handicap. Ça, c'est la chance et la force de travailler au champ libre de manière générale, c'est qu'on embrasse une variété de publics extrêmement large. Alors, dire tous les publics, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on a une belle représentativité au champ libre.
Tout à gauche, c'est quoi comme animal ? Avec une longue trompe.
Un éléphant.
Mais là, c'est un éléphant qui vivait il y a très très longtemps, quand il faisait très froid. C'est un mammouth. C'est encore plus gros qu'un éléphant, il avait des gros poils. Est-ce qu'à votre avis, le mammouth, c'est le roi de la forêt ? Et il y a quoi d'autre comme animal ? Un taureau. Est-ce que le taureau pourrait être le roi de la forêt ?
Non. Vous allez travailler différemment avec ces publics ?
Dans l'idéal, oui, on a une proposition adaptée pour chaque type de public, pour qu'ils s'y retrouvent, pour que ça corresponde à leur attente. Après, dans ces catégories de public, c'est très variable aussi, donc on ne peut pas systématiser, il faut toujours s'adapter. Mais l'idée, c'est d'avoir des formats qui correspondent et à leur niveau d'attention, et à leurs attentes, et à leurs connaissances. Donc on a des formules qu'on adapte.
Et vous avez des préférences personnelles par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez faire que d'autres ?
C'est marrant parce que depuis septembre, là, il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver au musée et on m'a posé plusieurs fois la question. Et du coup, j'ai toujours la même réponse. Cet été, j'avais tendance à dire que j'aimais bien les adolescents. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu pas mal d'adolescents. Et puis à la rentrée, on a repris les groupes scolaires. Du coup, ça a été le retour, par exemple, des maternelles. Et du coup, après, j'étais sur les maternelles. Donc en fait, non, j'ai pas vraiment de public préféré. J'ai des situations par contre préférées, enfin, quand on est content de son objectif, quand on est content de la visite, de la médiation qu'on a faite, bah, en fait ça devient ton public préféré, mais ça n'a pas vraiment de sens.
Ouais, moi j'aime bien les maternelles, mais c'est un peu à double tranchant, ça peut aussi être un enfer. s'ils ont raté leur sieste ou qu'ils ont eu une grosse journée et qu'ils sont fatigués... Ça peut être assez fatigant aussi, assez dur, mais c'est très rigolo quand même. Mais en fait, je pense que ce que j'aime bien, moi, avec les jeunes jusqu'au CE2 à peu près, c'est qu'ils n'ont pas de pudeur sur leurs questions. Et ils n'ont pas peur de poser des questions qui paraîtraient bêtes à des adultes. Donc l'échange est assez facile et assez naturel, et on est souvent surpris de ce qu'ils vont demander ou de ce qu'ils vont répondre. Et c'est très instinctif pour eux, donc du coup c'est assez brut et c'est chouette.
Et vous allez utiliser des outils différents ou des dispositifs différents selon les publics ?
Ouais. Bah, par exemple, on a eu pas mal de réflexions autour de l'accueil des publics allophones, donc qui sont en apprentissage de la langue française, qui ne la maîtrisent pas encore parfaitement. Et dans ces cas-là, on a réfléchi en fait à axer la découverte du musée de Bretagne et de l'échange sur en passant par les sens, en passant par des choses en fait assez universelles. Aborder une odeur, en fait, tout le monde a un référentiel sur ce à quoi renvoie cette odeur dans son imaginaire, dans son propre imaginaire. Donc c'est le type d'outil par exemple qu'on va mettre en place pour ces publics-là. Et c'est des outils qu'on met à la fois en place, non seulement pour accompagner ces personnes, mais aussi pour que nous, on soit à l'aise. Parce que si on n'est pas à l'aise, nous, à accompagner des personnes, la visite, elle peut difficilement bien se passer.
Par exemple, pour le public non-voyant, on a des maquettes, des planches tactiles pour pouvoir faire des visites tactiles. Donc on a plein de matériel prévu pour ça, avec des reproductions des collections. Pour le public scolaire, en fonction de l'âge, on va avoir plus ou moins de contenu écrit, s'ils savent lire ou pas. Donc voilà, on a plein de variantes en fonction du niveau du visiteur, quoi.
Et durant une visite, vous pouvez rencontrer des contraintes. Lesquelles, pour vous, sont les plus marquantes ?
De toute façon, en médiation, tu peux avoir tout prévu. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on fait. On a des déroulés extrêmement carrés. À ce moment-là, tu fais ça. À ce moment-là, tu peux faire ça. À ce moment-là, tu peux faire ça. Néanmoins, c'est le terrain qui commande. On ne peut pas tout anticiper. Et ça fait partie d'une des compétences à avoir et nécessaire dans ce métier-là, c'est d'être dans l'adaptation perpétuelle, parce qu'il n'existe pas un public particulier. Sur des contraintes vraiment très précises.
Disons que la plus récurrente, c'est quand même le bruit, je pense, lié au bâtiment, parce que du coup, le musée n'est pas isolé du hall. Et donc, quand il y a du bruit dans le hall, notamment des groupes qui attendent pour l'espace des sciences, par exemple, on entend. Et du coup, ça déconcentre les publics, les enfants. Et nous, ça peut être gênant aussi. Voilà. C'est le plus récurrent, je pense, quand il y a des montages.
Et je pense aussi, tu sais, Laura, en individuel, quand on est avec des adultes, c'est selon aussi l'exigence des personnes. On disait qu'on faisait pas, notre métier c'était pas d'être dans une approche conférencière. Néanmoins, t'as des personnes en fait qui se présentent à des visites qui souhaitent ça. Et donc là, faut s'adapter sur des groupes en individuel qui ne se connaissent pas, des adultes, qui ont un niveau de connaissance sur le sujet qui est extrêmement différent. Et du coup, faut réussir à avoir un double niveau de discours.
Et vous avez des anecdotes par rapport à ces contraintes ?
Moi, j'ai une anecdote sur. Je me suis fait rouler dessus par des enfants de 5 ans. Ça a été la seule fois où j'ai arrêté une médiation. Parce que les enfants qui étaient... Pourtant, il y a des accompagnateurs, hein, l'enseignant, et des accompagnateurs lors d'une médiation scolaire. Néanmoins, clairement, les enfants n'avaient pas envie d'être là, n'avaient pas été préparés pour être là, et étaient extrêmement dissipés, à un point où, en fait, ils mettaient en danger les objets dans le musée. Donc, après avoir essayé multiples techniques pour les rassembler, les calmer, quitte à modifier vraiment la médiation, ça ne fonctionnait pas, avec un abandon total des accompagnateurs. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté du coup la médiation.
Ce que je disais, moi, qu'il y avait du bruit et que ça pouvait être, faire des distractions. Une fois, j'étais dans Mourir qu'à l'histoire, donc l'exposition sur les rites funéraires, et devant la statue de Lankou, je parlais de Lankou, à quoi ça ressemblait, et du bruit de sa charrette qui fait wikawak, wikawak, wikawak. Et juste quand je parle de ça, il y a mon collègue qui est en train d'installer sa visite, qui arrive avec un chariot qui grince, qui faisait vraiment le bruit de la charrette de Lankou, et tout le monde s'est retourné un peu effrayé.
Tout à l'heure, tu parlais de déroulement de visite. Mmh. C'est vous qui les organisez, ces déroulements ? Comment ça se passe ?
Oui, c'est ça. Alors, on a repris, nous, des choses qui avaient été conçues avant nous. Donc, on a repris cette base. Tous les scénarios de visite, effectivement, étaient écrits pour être pour former, en fait, les nouvelles personnes plus rapidement. Donc, ça fait partie de notre travail de médiateur permanent, on va dire. À la fois l'animation des visites et la conception des visites de toutes les médiations, en fait, même les dispositifs interactifs qui sont utilisés en autonomie. Donc nous, on prépare tous les documents pour faciliter la tâche aux autres médiateurs, aux guides animateurs, et qu'ils puissent faire leur visite le plus sereinement possible, en gros.
Et vous allez collaborer avec d'autres métiers, d'autres corps dans le musée pour organiser ces visites ou pas ?
Pas forcément pour le déroulé, on travaille beaucoup avec nos conseillères relais, donc on a deux enseignantes qui travaillent avec nous quelques heures par semaine, qui peuvent nous aiguiller sur les programmes scolaires notamment, et sur ce qui est adapté au niveau scolaire à chaque fois. Donc c'est plus avec elles, et sinon c'est plus entre nous trois, mais on va pas forcément se référer à la conservation, là ça va plus être sur les dossiers pédagogiques où ils peuvent faire une relecture, mais pas sur le contenu même des visites, quoi.
Qu'est-ce qui peut rendre une visite captivante ? Est-ce que vous avez une phrase clé ou un procédé clé pour attirer les gens à écouter ce que vous dites ou ce que vous faites?
Elle est dure cette question.
Ah si, parce que Pascal il a une réponse à ça. À chaque fois il dit qu'il faut mouiller sa chemise. Et que si tu mouilles ta chemise, t'embarques les gens. En fait c'est ça, c'est si toi t'es passionné, les gens ils suivent. Et lui il est très fort à ça par exemple.
C'est vrai qu'il y a un côté un peu entrée en scène. Mm. Après, c'est pas du spectacle non plus, hein. On est quand même là pour dire des choses scientifiques, un minimum.
Moi, au niveau de l'énergie, c'est vrai qu'on est sur du one-man show un peu quand même.
Il faut en fait avoir même dans ta parole un rythme, faut pas être monotone, faut dans ton langage corporel, faut bouger, faut montrer, être avec les gens. Donc c'est, ouais, c'est presque un peu du théâtre, quoi. Mm-hmm. Mais tout en étant sérieux quand même. Mmh.
Eh bien, vous aviez raison, car non, c'est un animal très très gros, se tenant debout haut sur ses pattes, couvert d'une épaisse fourrure de la tête aux pieds, avec des pattes énormes et de longues griffes acérées. Cet animal, c'était l'ours. C'est lui. Pour être plus fort, les hommes et les femmes, après avoir chassé l'ours, qui était d'ailleurs la plus grande et la plus dangereuse de toutes les chasses, portaient sa fourrure sur le dos. Ils portaient des colliers entièrement décorés de ses dents et de ses griffes d'ours.
Et votre collier va changer selon le public que vous allez avoir ?
Ouais, bien sûr. Ouais. Puis des fois, tu le sens, en fait, même si c'est a priori le même type de public, il y a quelque chose que tu sens qui n'est pas palpable, en fait, avec ces personnes. D'un coup, ça va te faire comprendre qu'il vaut mieux adopter une telle ou telle posture. Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a un aspect que vous aimez mettre en avant dans vos médiations ?
Moi, j'aime bien faire des blagues.
T'aimes bien faire participer aussi les personnes.
Ouais, j'aime bien que les gens racontent un peu, mais c'est pas toujours évident.
Et pour rajouter une petite blague, vous savez, bah, on dit que du coup, ils rajoutent de la dentelle parce que ça coûte moins cher, et c'est vrai qu'on dit souvent que les bigoudins sont un peu radins. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Vous êtes pas bigoudin, non? Non. Ça va. Et donc c'est un bigoudin et un léonard. Les léonards, c'est ceux qui sont du Nord Finistère. Et on dit qu'ils sont radins et voleurs en général.
Oui.
C'est vrai?
Oui, j'ai dit ça.
Donc c'est un bigoudin et un léonard qui sont à la messe et ils font le concours de celui qui donne le moins pour la quête. Donc le bigoudin va donner un centime à la quête. Et le léonard qui est derrière, il est un peu coincé, quoi. Donc il va dire à Adam, il a donné pour moi, avec un centime. Parce qu'on dit que les bigoudins, ils jettent l'argent par les fenêtres, mais de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, moi, c'est des petites blagues, mais finalement, c'est un territoire très pauvre, hein, donc on est sur de l'économie au maximum. Pour optimiser, on va dire, toutes les productions et les richesses du pays. Mais on le retrouve finalement dans le vêtement et dans l'économie locale.
Sinon, on part toujours de l'objet, donc c'est vrai que de là, on découle beaucoup sur l'histoire, normalement.
Oui, t'as raison. Ça, c'est une chose importante, c'est qu'on reste dans un musée avec des objets, donc il faut parler de l'objet. Après, le remettre dans son contexte, certes, mais si on s'arrête que sur le contexte historique, bah en fait, là, une conférence à l'auditorium, ce serait très bien. Mmh. Donc il faut rester, en fait, vraiment sur les choses qu'il voit. Et ça facilite l'appropriation, en fait, aussi du discours.
Alors, on utilisait ça. Ça s'appelle un carrosse. Oui, ça s'appelle un carrosse. Et comment ça se passe un carrosse? Eh bien, on prend des vêtements. Et on va venir les frotter là-dessus. Pour enlever toute la trace.
Et qu'est-ce que vous aimez transmettre ou faire découvrir au public?
Moi, j'aime bien les cultures vraiment les cultures populaires. Bah là, on parle vraiment pour l'histoire de... Si on parle des visites sur le parcours du musée de Bretagne, les contes, les légendes, des pratiques que l'on peut qualifier de superstitieuses hein, aujourd'hui, mais moi j'aime bien mettre l'accent quand même.
Elle continue à savonner, à frotter et à taper avec les deux mains. C'est sans doute pourquoi elle n'entendit pas arriver une autre lavandière qui venait laver son linge. C'était une femme mince, svelte comme une biche. Et qui portait sur la tête un énorme tas de linge, mais aussi légèrement que si c'était un ballot de plumes. Cette femme, on l'appelait la Mauvaise Nose.
Moi, j'aime bien démonter un peu les clichés sur les autoroutes gratuites, par exemple. Des choses... Bon, du coup, on se raccroche à des éléments que les gens connaissent, ils ont des repères, et ça leur permet d'avoir quelques notions historiques. J'aime bien glisser des anecdotes, parce que souvent, c'est plus de ça qu'on se rappelle. Ou des petites traductions de breton, des choses qui peuvent ressortir en soirée pour briller, quoi.
Parfois que c'est grâce à Anne de Bretagne que les autoroutes sont gratuites. Si vous avez déjà entendu ça ou pas. Donc là, c'est une petite confusion qui est devenue une légende urbaine. Parce qu'effectivement, alors peut-être grâce à Anne de Bretagne et plus largement aux États de Bretagne, la Bretagne conserve ses avantages fiscaux. Il y en a un qui est important, c'est celui de ne pas payer l'impôt sur le sel, la gabelle, ce qui nous permet de manger du beurre salé. Déjà parce que c'est meilleur et en plus pour nous c'était moins cher. Mais par contre les autoroutes, là, il faut attendre 1968 avec le plan breton pour avoir des autoroutes gratuites. Donc c'est pas Anne de Bretagne encore. Mais bon, le beurre salé, on peut dire que c'est Anne de Bretagne.
Et puis on a de la chance avec les objets qui sont exposés dans le parcours du musée, c'est qu'il y a énormément d'objets de la vie très quotidienne. Mm. Ce qui fait que c'est moins éloigné en fait avec leurs références contemporaines. L'hygiène, la pratique esthétique à l'antiquité gallo-romaine, mettre des pinces à cheveux, ça parle encore aujourd'hui.
En fait, c'est ça qui est bien au musée de Bretagne, c'est vrai, par rapport au populaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de référence. En fait, quand on arrive au musée, il n'y a pas besoin de connaître ni la Bible, ni l'histoire de la peinture. Donc même quand on ne connaît rien, on peut découvrir, en tout cas en visite, ce que c'est l'histoire de la Bretagne, et ça marche, même en étant pas breton, les gens raccrochent toujours à des choses qu'ils connaissent eux, et du coup c'est assez facile de créer du lien. Là où devant un tableau on peut se sentir un peu perdu si on n'a pas les références.
Qu'est-ce que vous appréciez le plus à travailler dans un musée ici de société, d'histoire?
Bah en fait c'est, bon, je grossis un peu le trait, mais du coup c'est presque facile. En fait, dans cet objectif qu'on évoquait avant de créer du lien, bah, les objets et du coup le discours qu'en découle facilite énormément cet objectif, enfin d'atteindre en tout cas cet objectif là.
Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans votre métier?
Bah, la visite. C'est vraiment une relation presque amour-haine, parce que elle est très énergivore, des fois presque envie, pas envie d'y aller, et en même temps qu'elle souvent. Quelle satisfaction à la fin, parce qu'en plus, ça justifie ce qu'on fait en arrière. Ça met vraiment du sens.
Ouais, c'est ça, c'est le contact avec les gens. Du coup, ça change tout le temps, en fait. Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Du coup, on apprend toujours des choses, parce que les expos changent de sujet aussi. Donc, personnellement, c'est très enrichissant. Et comme on rencontre du monde... mais on dose aussi, parce qu'on n'a pas un planning avec que des visites, mais aussi tout ce temps de conception. On peut l'apprécier un peu à sa juste valeur sans saturer trop, je pense.
Et dans vos bureaux, du coup, c'est une grande partie quand même de votre travail. Vous allez y faire quoi?
C'est vrai que c'est une particularité hein, pour nous, parce que quand on rencontre plusieurs collègues médiateurs, médiatrices dans d'autres structures culturelles, c'est loin d'être le cas pour toutes et tous d'avoir autant de conception en amont. Ce qu'on fait, c'est que on va accompagner des projets expographiques afin de, comme tu disais Laura, par exemple, de mettre en place des dispositifs de médiation au sein de l'espace, par exemple les dispositifs numériques, des dispositifs mécaniques. On va aussi être vigilant à ce que le discours soit compréhensible et lisible par le grand public. On ne fait pas... On ne vérifie pas le contenu scientifique, hein, juste sa compréhensibilité par le plus grand nombre. Ensuite, on va également accompagner certains projets qu'on appelle aussi des projets EAC, donc des projets avec du scolaire, mais sur du moyen terme. Ça va de une classe qui va passer toute une semaine au champ libre pour découvrir le trajet d'un objet avant d'arriver dans une belle vitrine, à la mise en place, Laura, que tu avais fait d'un parcours sur la place des femmes dans l'histoire. Donc c'est très, très varié. Ça va être aussi une partie qui est assez importante. Eh bien, ça va être l'organisation de toutes ces visites, de tout cet accueil de groupe.
Donc les plannings, répondre aux demandes des enseignants, créer les supports, organiser les équipes. Bah, ça, c'est tout ce que tu fais finalement, mais ouais, ça demande beaucoup de temps aussi.
Vous êtes multitâche, vous êtes sur le terrain et à l'arrière aussi.
Voilà, ouais. Ouais. Moi, en plus, je gère tout le stock de documents de médiation, donc les livrets-jeux, les livrets d'aide à la visite. Donc quand il faut en réimprimer, quand il faut les refaire, faire le lien avec les graphistes, plus les réseaux sociaux, donc la communication aussi sur toutes ces visites. Voilà, donc du coup, on a beaucoup de travail de bureau, il y a beaucoup de réunions aussi en équipe pour que ce soit le plus transversal possible.
L'une des parties importantes de notre travail qui est compliquée à faire, c'est la documentation. L'effort quand même que ça demande d'être... on n'exige pas, nous, d'être experts sur tous les sujets. Néanmoins, il faut quand même avoir une bonne base assez solide. Et ça, ça nous demande quand même énormément de temps de pouvoir se documenter. Comme tu me disais, Laura, les expositions temporaires étant temporaires, les sujets changent. Donc, il faut se documenter sur ces sujets. Et il faut se sentir à l'aise avec eux. Et avant d'improviser quoi que ce soit, il faut bien connaître son texte. Donc... faut être à l'aise avec ce contenu et ça, ça fait partie quand même du travail, une grosse partie du travail à devoir faire.
Ouais, d'être multitâche, passer d'une réunion sur une expo à aller en visite après avec des CM2 sur un sujet complètement différent. C'est la richesse et la difficulté un peu de nos missions là.
Quand tu parles de documentation, quand l'exposition elle est conçue, il n'y a pas une documentation qui est réalisée qu'on peut vous donner.
C'est nous qui le faisons. Ouais. On fait un dossier documentaire sur l'expo. Après, les commissaires d'expo peuvent nous donner des sources et éventuellement des documents, mais c'est nous qui faisons la synthèse pour faciliter le travail aux autres. Et après, on a des formations par les commissaires d'exposition, mais c'est la veille de l'ouverture de l'expo, donc c'est un peu juste.
Mais le fait de suivre, du coup, le projet expographique, ça aide à, en tout cas, s'immerger dans le sujet pour le médiateur ou la médiatrice qui suit cette exposition et du coup, de faciliter un peu la documentation derrière. Mais ouais, c'est un sacré travail parce que ce travail de documentation, c'est non seulement avoir les contenus à diffuser au public, mais en fait, ça aide pour l'exercice de visite à trouver un fil rouge. C'est que nos visites ne cherchent pas à répéter ce qu'il y a sur les cartels. Dans ces cas, il n'y a pas besoin de nous. Il faut qu'on apporte autre chose. Et dans ce autre chose, c'est le lien. Et le lien, il se fait notamment sur les fils rouges en fait, qu'on propose.
Il faut qu'on raconte une histoire un peu. Donc oui, on essaie de trouver des transitions, ouais, comme tu dis.
Tout à l'heure, vous parliez des expositions qui changeaient assez régulièrement. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué depuis que vous êtes ici? Et pourquoi ?
Il y en a une qui nous a marqué dans le mauvais sens. C'était Celtic, où il y avait eu beaucoup de controverses sur l'exposition. Et pour nous, c'était très difficile à gérer en médiation, parce que du coup, on était en première ligne. On devait assumer ce propos scientifique auquel on n'avait pas participé. Et du coup, on était un peu coincé entre nos convictions personnelles et le discours du musée qu'il fallait qu'on porte. Et surtout bah, avec la gestion de conflits, puisqu'il pouvait y avoir des situations un peu agressives de la part des visiteurs. Donc, et puis en plus, du coup, on avait une appréhension à y aller parce qu'on savait pas trop ce qu'on allait nous demander, sans avoir le recul non plus des agents d'accueil qui, eux, étaient complètement détachés du sujet.
Pour reprendre un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que en plus, ça a rompu complètement la posture que l'on doit avoir en médiation, que l'on exige de nous. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, je me présentais aux visites en y allant hein, avec plaisir, mais un peu sur la défensive.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est absolument terrible en termes d'approche des publics. Donc c'était confortable pour personne, ni pour nous médiateurs, ni pour les personnes, parce qu'on sentait une forme de tension en fait, dans cette découverte, alors que comme tu le disais Laura, un des objectifs c'est d'avoir passé un bon moment. C'est compliqué de passer un bon moment quand il y a de la tension et quand on est un peu sur la défensive.
Et il y a une visite qui vous a marqué plus positivement?
Oui, mais en fait ça, il y en a plein. Il y a bien plus de visites qui nous marquent positivement que l'inverse. Une visite en particulier... moi, j'aime bien quand t'as une visite avec des adolescents et qui sont restés, quoi. Ça, c'est quand même...
D'accord. Bah moi c'était Mourir quelle histoire du coup en expo parce que le sujet était tellement populaire et concernait tellement tout le monde qu'il y avait des échanges assez incroyables pendant les visites. Et du coup le sujet faisait qu'on pouvait s'amuser pour un sujet qui paraissait dur, hein. On aurait pu croire que c'était pas évident d'en parler, mais en fait comme bah, tout le monde est concerné, on pouvait vraiment l'aborder avec n'importe qui, n'importe quel milieu. Ça intéressait vraiment tout le monde en fait ce sujet, donc c'était chouette. Mmh. C'était un beau terrain, et avec des très beaux objets en plus.
Est-ce que vous avez un petit rituel que vous faites avant une visite ou après pour vous mettre dedans
Non.
Moi au moment je faisais des petits exercices de respiration, changer d'air là. Mais là non, plus trop. J'aime bien prendre un petit goûter après moi.
Alors par contre, c'est important juste d'avoir, sans avoir un quelconque rituel, mais au moins 10-15 minutes avant ta visite, un peu tranquille. Mm. Pour te plonger dans ce qui va venir. Et aussi d'avoir un petit sas après. Mm. Ça, c'est dur quand t'as fini ta visite. Le retour à la réalité, des fois, est assez violent.
Et pour terminer, est-ce que vous avez une anecdote un peu folle ou qui vous tient à cœur sur votre métier, ce que vous avez vécu ici depuis le début? Ça peut être dans les bureaux, ailleurs.
Moi j'en ai une dans le métier de médiation, mais pas au musée de Bretagne. Comme je te le disais, moi j'ai fait une formation en art actuel et du coup j'ai été médiatrice pour des expositions d'art contemporain. Je vais rester assez vague sur quelle œuvre, etc. parce que c'est d'un immense artiste contemporain. Avec une œuvre extrêmement célèbre, mais où en pleine médiation, j'ai eu une tentative, qui a quand même un peu abouti, d'attentat sur l'œuvre.
Ah oui?
Oui, où la personne a sorti des ciseaux pour découper toute l'œuvre. Compliqué à gérer en visite. Ah, d'un coup. Et donc après, bon, en même temps, c'est se demander, vais-je faire barrage? Pour sauver l'œuvre? Je suis pas sûre et j'ai toujours pas la réponse à ça encore.
Mmh. Alors récemment, j'ai travaillé avec la prison des femmes pour leur présenter l'exposition Mourir quelle histoire, parce qu'on intervient aussi en prison. Et dans les détenues, il y en avait une qui était agent funéraire, du coup, qui s'intéressait beaucoup au sujet. Donc je lui ai présenté d'avoir l'exposition là-bas et puis elle est venue après et c'est elle qui a fait une partie de la visite. Et à la fin, elle nous a confié qu'elle était très contente d'avoir vu cette exposition et que ça l'a confortée dans son choix de garder ce métier, sachant qu'elle était en fin de peine, donc on était en plein moment où justement elle pouvait se poser la question de comment elle allait se réinsérer. Et je trouve que ce type de retour, ça, justement, ça donne du sens à notre métier. C'est chouette, voilà, c'est valorisant pour le visiteur aussi, pas juste pour nous. Et c'est un bon exemple du pouvoir qu'on peut avoir en médiation et de la culture... De l'utilité de la culture, on va dire.
Et puis on a des fidèles, moi j'adore.
Oui, ouais.
On a des personnes qu'on retrouve sur des visites du week-end, et le week-end qui suit, ils reviennent. Et ça, c'est quand même génial. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les visites, c'est presque parfois lorsque la visite m'échappe, où les personnes commencent en fait à se raconter entre elles des choses, et où je m'efface dans cet objectif de création de lien pour finalement être dans du contenu, rajouter juste des éléments de contenu. Et en fait, le lien s'est créé entre le groupe, des personnes qui se connaissaient a priori pas du tout. Et alors là, je me dis que c'est bingo, quoi. Mm-hmm. Que c'est gagné. Et ça arrive. Et quand ça arrive, c'est génial.
Et ben, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Merci à
merci.
Toi.
Merci.
Ce qui nous a amené là en fait, de revenir.
Vous voyez, êtes des fidèles.
C'est, oh, c'est trop bien. Oh, des fidèles, pas du tout vraiment. Peut-être qu'on va le lire.
Donc maintenant, vous pourrez raconter vous aussi cette histoire de ce roi qui a été détrôné par le loup. Est-ce que ça vous a plu? C'est ça que je voulais vous raconter. Maintenant, vous la connaissez.
L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.